donc, est-ce que le désir ne serait pas la meilleure façon de montrer que le rapport entre un individu et le réel est toujours médié, toujours le fait de médiation, de représentation, et que c'est peut-être pour ça que le réel est toujours, plus on pense le toucher, plus il est insaisissable, il est toujours obscur, parce que nous n'y avons pas accès directement.
Ce qui rend le réel insaisissable aux yeux de Rosset, c'est davantage le fait que... aux yeux de Rosset, c'est davantage le fait qu'un désir pensé comme manque se donne un objet qui, par définition, est hors d'atteinte. De sorte que ça n'est pas parce que les objets sont trop difficiles à atteindre qu'on n'y parvient pas. Ça n'est pas parce que les objets... C'est la nature du désir que j'en ai qui les met hors d'atteinte. Donc, il existe une modalité du désir, une façon de désirer, qui se donne délibérément un objet hors d'atteinte. À la façon dont on peut aimer quelqu'un parce qu'on aime l'idée qu'on s'en fait, et ce quelqu'un n'étant que lui-même une fois qu'on l'épouse, par exemple, eh bien, on ne s'en satisfait pas, et l'idée qu'on s'en fait demeure, elle, hors d'atteinte. Là, vraiment, Rosset est spinoziste. Parce que Spinoza est le premier à avoir formulé l'idée de désir mimétique. L'idée que nous puissions désirer le désir que d'autres ont de la chose que nous croyons désirer. Si vous désirez cette pomme, ou ces chaussures, ou cet iPhone 5, c'est parce que d'autres le désirent en même temps que vous. Et vous désirez le désir que d'autres en ont. Vous êtes partie prenante d'un désir qui, au fond, devient collectif. C'est comme ça que la publicité fonctionne. Mais là où Spinoza et Rosset sont particulièrement subversifs et apprennent véritablement à se défaire de la foule, à se dégrégariser, c'est qu'il s'agit de travailler sur la nature de notre désir. Comment faire pour désirer la chose elle-même, séparément du désir que les autres en ont, j'irai même plus loin, séparément du besoin qu'on en a. C'est là qu'on essaie de penser un désir séparé du manque, justement. Quand on désire ce dont on a besoin, on désire ce dont on manque. L'objet ne vient que combler un manque, de sorte que cet objet est interchangeable. Tout ce qui comble un manque est bon à prendre. Comment faire pour désirer une chose indépendamment du besoin qu'on en a, c'est-à-dire désirer cette chose elle-même? C'est une question qui engage le rapport amoureux. Comment faire pour aimer quelqu'un et non pas s'aimer soi-même ou être amoureux soi-même de l'amour qu'on porte à quelqu'un ou être amoureux de l'idée qu'on se fait de la personne qu'on aime? Comment faire pour aimer quelqu'un d'autre? L'enjeu, c'est l'altérité. Comment faire pour désirer séparément du besoin qu'on en a? Et la première école de cela est une école déceptive, c'est-à-dire que la première leçon, c'est d'apprendre que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Et en cela, Rosset appartient à la tradition des philosophes qu'il appelle les philosophes terroristes, c'est-à-dire ceux qui dynamitent les systèmes rassurants que d'autres ont construits, qui nous donnent le sentiment que le monde est adapté à nos désirs ou à nos besoins. Eh bien non, le monde n'est pas adapté à nos désirs ou à nos besoins, et faire l'expérience du réel, c'est faire l'expérience d'un monde qui se fout de savoir que vous vous y trouvez. C'est expérimenter cela. C'est expérimenter cela, c'est faire cette expérience profondément indigeste, mais qui, quand on la parcourt, quand on l'amène à son terme, enfin à son terme, c'est-à-dire à la mort, mais qui, quand on la creuse, quand on l'explore, demeure la meilleure façon d'aimer véritablement, c'est-à-dire d'aimer l'autre dans celui qu'on aime, et non pas soi-même à travers le filtre accommodant d'un autre refabriqué selon mon désir. L'enjeu, je crois, c'est vraiment l'amour. Gary dit que être aimé, c'est bien, mais que aimer, c'est de première nécessité. Aimer, c'est de première nécessité, et c'est une philosophie de l'amour. C'est une philosophie de la joie ou de la foi, de l'amour. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aimer un monde qui n'a rien d'aimable. Parce que quand on l'aime pas, il nous fait souffrir deux fois, puisqu'on en souffre déjà, mais surtout... aimer un monde qui n'est pas là pour nous, aimer l'étranger, aimer l'autre, être capable de cet amour-là, c'est-à-dire de l'amour du singulier, aimer ce que les choses ont de singulier, ce que les choses ont d'irremplaçable, d'absolument singulier.